Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, a dit le Christ. Cela est vrai pour nous aujourd'hui, une fois de plus. Il est présent au milieu de nous comme il veut l'être chaque jour de notre existence. C'est la raison pour laquelle nous commençons ce culte par nous réjouir en nous levant et en chantant le premier chant indiqué dans le livret liturgique qui figure au début de notre psautier français. « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. » Éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce de me surprendre lorsque je suis habitué et de me reprendre lorsque je suis égaré, de me prendre lorsque je suis perdu. Je te rends grâce d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Dieu vivant, Dieu vivifiant. Amen. Et nous pouvons poursuivre notre louange par le chant du psaume 89 dans notre psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 6 du psaume 89. Nous avons la joie de nous accueillir les uns les autres ce matin. Nous avons aussi la joie d'accueillir le pasteur Florence Thoman qui est venu avec des amis de Madagascar. Nous avons la joie d'accueillir Abdel qui tout à l'heure fera une profession de foi. Et nous avons aussi la joie d'accueillir Luca et Chiara qui ont demandé le baptême pour leur fille. Et c'est une demande que l'Église accueille aujourd'hui avec beaucoup de joie. C'est une manière pour elle de répondre à sa vocation, ainsi formulée à la fin de l'Évangile selon Matthieu, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples en ces termes. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Éternel, notre Dieu, un jour nous avons peut-être été baptisés, pardonne-nous de l'oublier. Si nous avons été baptisés, nous avons été baptisés en ton nom de Père. Mais nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes véritablement tes enfants. Nous nous écartons de toi, nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils, mais aimons-nous véritablement notre prochain? Ne cherchons-nous pas plutôt notre propre intérêt au lieu de servir? Baptisés, nous l'aurons été au nom de l'Esprit. Avons-nous porté les fruits de l'amour, de la fidélité, de la joie? Éternel, nous t'en prions. Accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre librement dans ta paix et à ton service. Amen. Oracle de l'Éternel, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, je serai votre père, vous serez mes fils, mes filles. C'est par ces paroles, frères et sœurs, que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Et c'est ainsi qu'il nous donne de marcher ensemble vers ce royaume auquel il nous appelle. Alors, levons-nous pour lui chanter notre reconnaissance. Thank you. Nous restons debout pour accueillir Abdel, que j'invite à me rejoindre. Vous voici maintenant au cœur de l'oratoire, après avoir progressivement franchi toutes les étapes qui vous mènent jusqu'ici, des étapes qui vous ont fait venir de traditions religieuses différentes, à l'égard desquelles vous avez souhaité pouvoir développer une forme de regard critique, notamment vis-à-vis d'une compréhension de la religion qui pouvait peut-être être trop magique parfois, et des lectures, des rencontres, et puis aussi ce que nous appelons le tourisme ecclésial, vous ont finalement conduit ici, où vous avez trouvé un lieu d'hospitalité pour votre spiritualité, pour votre quête, pour votre recherche. Et voici donc un lieu qui s'offre à vous, et nous sommes heureux de vous accueillir. Vous avez demandé à professer la foi chrétienne devant cette communauté. Eh bien, ce sera l'occasion pour nous d'être en communion avec vous à travers les mots que vous avez choisis et que vous allez maintenant faire retentir.
Merci. Je refuse d'accepter la foi comme un outil de contrôle. Je crois en Dieu, réalité présente et indicible. Dieu renouvelle le regard, donne la capacité de se laisser émerveiller par l'autre, la nature, les arts, l'apprentissage, les découvertes. Dieu nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres, dans nos différences et avec la certitude que le dialogue et l'échange sont source de paix. Dieu donne à la vie une texture, une saveur, une richesse et une valeur neuve, comme un son que l'on finit par reconnaître comme étant une phrase porteuse de sens. Jésus invite à penser Dieu comme une liberté radicale, un amour infini, une joie inépuisable. Dans les récits qui le présentent comme maître des lois de la nature, je vois une invitation à rejeter toutes les habitudes et toutes les règles inhumaines dont on fait des lois naturelles. Je crois que la foi chrétienne, dans sa recherche du royaume de Dieu, invite à faire progresser sans cesse la liberté, l'amour et la joie. Merci.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place, frères et sœurs. Abdel, permettez-moi tout de même de vous dire quelques mots d'accueil formels. Nous sommes quand même dans un cadre liturgique. Vous avez autrefois reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Alors, dans les circonstances présentes, nous vous recevons comme membre de l'Église. Vous avez non seulement votre place à la table du Seigneur, mais aussi dans les différentes activités, surtout les différentes actions, car c'est de membres actifs dont il est question, et pas simplement de consommateurs, bien entendu. Vous avez votre part au travail de l'Église, cette famille spirituelle qui vous accueille, qui est votre famille. Et puis, entendez bien que l'esprit est ce qui nous affermit dans ces relations interpersonnelles que vous évoquiez, qui nous permet de grandir, de faire épanouir notre humanité et de pouvoir renouveler jour après jour cet élan que vous avez manifesté. Eh bien, soyez le bienvenu parmi nous. Je vais maintenant inviter Luca, Chiara, Margot, parrain, à me rejoindre autour de ce baptistère. Margot a déjà l'âge de vouloir arpenter cette maison de Dieu, et je ne saurais l'en blâmer. Vous avez donc demandé que votre fille reçoive le signe du baptême. C'est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les premiers temps et qu'il renouvelle de génération en génération, selon cette fidélité que nous avons chantée dans les psaumes. Par le baptême, nous avons ce signe qui manifeste que Dieu est bienveillant pour nous, que la vie que tu reçois est un cadeau de tes parents et ce n'est pas un cadeau empoisonné. Ce baptême signifie que Dieu a aimé Margot le premier, qu'il l'appelle « mon enfant ». Ce nom t'est donné gratuitement, sans condition, dans l'espérance qu'un jour, Margot, tu pourras répondre à cette parole et découvrir la présence de Dieu auprès de toi. Alors Margot, nous allons procéder au baptême proprement dit. Donc, il va y avoir une part d'inattendu, c'est la trace du divin. Margot, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Margot, l'Éternel porte sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Vers toi, il tourne sa face et te donne sa paix. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Car je t'aime d'un amour éternel. Je crois qu'elle adhère. Frères et sœurs, voici Margot. Margot, voici ta famille spirituelle. Tu es ici chez toi. Tu pourras compter sur le soutien de l'amitié que tu perçois dans cet enthousiasme, sur le soutien de la prière, de l'amitié fraternelle. Tu es ici chez toi, ta place est à jamais marquée. Et tu auras bien entendu toute liberté de l'occuper ou non. Et à supposer que tu t'éloignes de cette communauté qui n'est que l'un des lieux de la grande communauté du peuple de Dieu, eh bien nous serions témoins de la fidélité de Dieu à ton endroit, en te disant que ta place est à jamais marquée. Et bien entendu, ce sera notre joie qu'un jour, tu puisses aussi confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alors vous avez choisi de dire quelques mots pour dire quelle est cette perspective qui s'ouvre pour Margot, et je vous donne maintenant la parole en votre nom à tous les deux.
Cher Margot, tu connais déjà l'amour de tes parents, grands-parents, oncle et tante, cousine, nourrice et déjà copine de crèche. Nous sommes ici pour témoigner de l'amour de Dieu pour toi. Comme dans une famille dans laquelle l'amour des parents est inconditionnel, ainsi dans la vie chrétienne, on apprend à répondre à l'amour de Dieu et non pas à essayer de le gagner. Nous sommes ici pour te faire découvrir la promesse de fidélité de Dieu, pour te parler de l'Évangile qui rend libre, confiant et constructeur de justice. Nous nous engageons à te faire connaître l'Évangile à travers nos choix personnels et familiaux. Tu pourras ensuite, dans quelques années, décider librement si tu ouvres droit répondre ou non à l'amour de Dieu qui est et restera inconditionnel.
J'attendais ce moment où la famille allait prendre la parole pour que vous puissiez être saisis par cet accent vaudois. C'est aussi le plaisir de découvrir que, venant de cette Italie qui est votre terreau familial, et j'en profite pour saluer vos familles, vous avez pu découvrir ici même, à Paris, et plus spécifiquement dans cette communauté, une autre famille, un autre lieu pour plonger ses racines, et un lieu où tu as vu le jour. C'est une vraie petite parisienne. Nous allons maintenant recueillir tous ces engagements, toute cette beauté de la vie qui ajoute à la vie avec une prière et je laisse au parrain le soin de nous conduire dans la prière.
Aujourd'hui, nous célébrons la force de l'amour, l'amour de Dieu pour la création, l'amour de Jésus-Christ pour l'Église universelle, communauté de croyants, l'amour des deux parents capables de foi dans la vie. Le lien d'amour entre famille, Église et création renouvelle notre foi, fortifie notre fraternité, donne de l'espérance à nos pas. Amen.
Chers frères et sœurs, chères familles, nos amis malgaches sont des pasteurs de l'église luthérienne malgache qui continuent à étudier à l'université de théologie luthérienne de Fianarantsoa à Madagascar. Et ils sont venus pour faire une tournée de concert en France. Et maintenant, ils vont vous offrir en cadeau ce chant.
Pour le cantique 204, il faudra faire aussi bien pour qu'on puisse aussi vous applaudir. Bien, Ces derniers dimanches, je crois, vont être l'occasion de relever quelques défis. Celui qu'Abdel m'a proposé, c'est de vous lire le chapitre 40 du livre de Job et d'en faire quelque chose. Je vais donc vous lire les 7 premiers versets. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le discutailleur va-t-il faire un procès au Shaddai ?» Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réponse à cela ? Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je ? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me feras connaître. » Frères et sœurs, poursuivons cette grâce exprimée à l'occasion du baptême par le chant du cantique 204. Avant de nous plonger dans le livre de Job, nous chanterons les deux strophes du cantique 204. Éternel, toi qui, par ton esprit, rassembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la source de notre foi, la fermeté de notre espérance, ce qui guide notre amour. Amen. Le discutailleur va-t-il faire un procès avec Shaddai ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela ? Chers frères et sœurs, le protestantisme n'a-t-il pas fait fausse route dès le départ ? N'avons-nous pas inscrit dans ce passage biblique l'interdiction même du protestantisme ? Avec cette double question, en forme de reproche, c'est l'ADN même du protestantisme qui est remis en cause. Notre capacité à pinailler, notre vocation à être grain de sel, notre appétence pour le débat, notre goût pour en découdre, intellectuellement, spirituellement, notre capacité à attraper l'Éternel par le col et à lui demander quelques comptes. N'avions-nous pas en tête que Dieu était un Dieu du dialogue ? Ici, tout semble nous donner tort. Et le fait même de ne pas être dans les clous, le fait de ne pas suivre gentiment le troupeau et de remettre en question l'ordre établi, semble intolérable. Alors s'il n'est plus possible de discutailler, s'il n'est plus possible de contester ou de protester, n'est-ce pas le moment de se résoudre à fermer la boutique ? Incontestablement, en tout cas, ce passage biblique interroge notre manière d'être, notre façon toute protestante de vivre. Ce texte nous interroge sur des aspects qui méritent effectivement d'être critiqués ou du moins interrogés, à commencer par ce qui nous est souvent reproché, une prétention à savoir mieux que quiconque, une forme d'arrogance due à un sentiment de supériorité sur les autres croyants. Je pense que personne parmi vous n'a été exempt de ces reproches latents ou explicites. En tout cas, nous, nous y avons droit assez souvent, y compris de la part de protestants. Je ne dis pas que cette remarque est fondée. Je constate qu'elle est souvent faite et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cela doit nous donner l'occasion de remettre en cause ce que nous donnons à voir, peut-être. Job, pour sa part, subit une remise en cause en bonne et due forme de la part de l'Éternel, ce qui le conduit à ce constat « Je suis peu de choses ». Et cela le conduit à une nouvelle attitude « Je mets ma main devant la bouche », autrement dit « Je fais profil bas ». Et je me tais. Je me tais au lieu d'avoir réponse à tout, ou d'avoir toujours quelque chose à dire, ou plus exactement, toujours quelque chose à redire. Cela aussi est constitutif de l'ADN des parpaillots. Nous pourrions comprendre ce texte comme la volonté toute puissante de Dieu de n'avoir aucun contradicteur, de ne subir aucune remontrance. Et il est vrai que dans notre tradition libérale, les remontrants, c'est quelque chose. Est-ce bien légitime ? Mais ce que dit le personnage Job indique qu'il a découvert sa véritable dimension, aussi bien au sein du monde qu'au regard de Dieu. Il est peu de choses, il n'est pas rien. Il ne s'est pas anéanti devant Dieu. Il prend conscience de sa juste dimension, qui est assez modeste au regard de tout ce qui l'entoure. Je dirais que l'attitude de Job est pleine d'humilité à l'égard de la prétention humaine à vouloir tout savoir. Chapitre 40 du livre de Job, nous sommes dans cette séquence où le personnage biblique prend conscience qu'il sait bien peu de choses, qu'il ignore l'essentiel de l'origine du monde, par exemple, et qu'autour de lui, il y a énormément d'inconnus. La découverte de Job est celle de l'humanité tout entière. C'est qu'à mesure que la science avance dans sa connaissance du monde, eh bien, l'ignorance augmente, elle aussi. Plus nous en savons, plus nous découvrons que nous ignorons encore plus de choses. Au fur et à mesure que nous comprenons des mécanismes de la vie, que nous découvrons le fonctionnement ou de nouvelles propriétés du vivant, des forces qui sont à l'œuvre dans l'univers, nous nous retrouvons face à de nouvelles énigmes, face à de nouveaux défis lancés à notre intelligence. Et cela devrait commencer par provoquer chez nous un peu d'humilité. Cette humilité qui caractérise Job devrait nous inspirer lorsque nous avons quelques prétentions à savoir comment le monde fonctionne exactement. Lorsque nous avons la prétention de pouvoir tout expliquer, autrement dit de tout savoir sur toute chose. Et ce passage biblique va plus loin dans la relativisation de notre savoir, de notre science. Je pourrais formuler la problématique avec cette question. La science nous donne-t-elle accès à la vérité des choses ? La science nous donne-t-elle accès à la vérité des choses ? La science nous offre-t-elle une connaissance directe des choses, des phénomènes, des personnes ? La science atteint-elle le réel ? Ou alors, n'en est-elle qu'une représentation, ce qui n'est déjà pas rien. Force est de constater que les sciences n'ont toujours pas réussi à épuiser leur sujet. Aucune science n'a encore atteint le moment où une théorie unifiée est en mesure de tout expliquer. Le réel continue à échapper, même aux sciences réputées être les plus dures. La sociologie n'a toujours pas fini son enquête auprès des communautés humaines qui ne cessent de démentir les prédictions et qui ne cessent d'offrir de nouveaux modèles d'organisation et de régulation. Mais la physique, dont on pourrait se dire qu'elle est capable de dire l'alpha et l'oméga, eh bien, la physique, quant à elle, n'a toujours pas fait la jonction entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors, quant à la théologie, nous la fréquentons suffisamment pour être passablement humbles en matière de discours sur Dieu et même sur la foi, sur les croyances. Non seulement nous ne sommes pas à la veille du jour où une confession de foi satisfera tous les croyants, mais la théologie laisse même entendre qu'une telle unanimité ne serait pas souhaitable. Peut-être est-ce d'ailleurs l'un des mérites de la théologie en tant que discipline scientifique, c'est de récuser l'unité par l'unification. C'est la raison pour laquelle, je reviens à la question de la foi, Il est intéressant de travailler sur une déclaration de foi pour l'Église plutôt qu'une confession de foi qui prétendrait épuiser Dieu au sens de le définir. Les amis de Job avaient la prétention d'avoir épuisé Dieu. Et peut-être nous-mêmes, parfois, avons cette prétention à l'égard des autres croyants ou des incroyants. Funeste projet que de vouloir dire le tout de Dieu. Bref, notre expérience personnelle, un regard sérieux sur ce que les sciences donnent à voir et l'écoute de ce passage biblique concourent à dire qu'il y a toujours un écart entre la science et le réel. Il y a d'ailleurs toujours un écart entre le discours sur Dieu et Dieu lui-même. Et l'analogie n'est pas fortuite de ma part. Cela, je le répète, pourrait nous conduire sérieusement à une attitude d'humilité qui est la seule à pouvoir être véritablement fidèle à la perspective biblique. Ce passage de Job redit les choses à sa manière. Il raille le fait que Job puisse entrer en procès avec Dieu. Alors, nous avons une idée du procès qui est toute judiciaire. Mais le sens du mot procès, le sens du procès, n'est pas d'abord une question judiciaire. Le sens du procès est d'abord lié à la question de l'action. Nous l'entendons par le détour de l'anglais qui donne processus, procédure, des termes qui n'ont pas un usage exclusivement juridique. Le procès, c'est d'abord l'action. Le procès se rapporte à ce que le verbe exprime au sujet ou à propos du sujet. Et cela a été particulièrement mis en évidence dans ce qu'on appelle la sémiotique ou l'analyse structurale. Lorsqu'on étudie un texte, tous les verbes sont appelés des procès. Je prends un exemple dans la Bible. La première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, parle de l'amour. L'apôtre Paul écrit « L'amour endure tout, il croit tout, il espère tout. » Endurer, croire, espérer, ce sont des procès qui disent quelque chose du sujet, l'amour. Je le dis encore avec un terme technique et puis après j'arrête de vous épuiser. Le procès exprime la performance du sujet. Alors je reviens à notre texte de Job. Railler la possibilité pour Job et donc pour l'homme, pour nous-mêmes, de faire procès avec Dieu, c'est l'expression du texte hébreu, la possibilité de faire procès avec Dieu, c'est dire que l'homme et Dieu ne sont pas sur un plan d'égalité en termes de performance. Il y aura toujours un écart parce que l'homme est sujet alors que Dieu est action, procès, process, processus. L'homme ne peut s'assimiler à des actions, au verbe. Seul Dieu le peut. D'ailleurs, Dieu est verbe. Le nom propre de Dieu, dans la perspective biblique, dans sa version hébraïque, est un verbe, le verbe advenir, conjugué à l'inaccompli, ce que nos traductions protestantes restituent par l'éternel. Au commencement, le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu. Quoi que ce soit le logos, ce qui n'est pas tout à fait le verbe, mais qui désigne l'action. J'en viens maintenant à la question de l'homme et de l'homme protestant. Que reste-t-il de lui après ce passage biblique ? Eh bien, ce passage biblique ne s'acharne pas à déconstruire la valeur de l'être humain. Il s'évertue à le remettre à sa juste place, c'est le travail de l'humilité, à exprimer sa juste condition, et il le fait de manière symbolique. Il va donner à Job sa véritable consistance. Et le conseil de mettre sa ceinture à ses reins est une manière de dire « que Job a une consistance, a une personnalité propre. Le fait que Job puisse mettre une ceinture à ses reins indique l'unité de Job, indique que Job est un tout. Si Job peut ceindre ses reins, cela signifie qu'il n'est pas fragmenté, qu'il n'est pas éparpillé façon puzzle. Notre être a une forme d'unité, symbolisée par la ceinture qui dit la possibilité pour celui qui la porte de dire « je ». Nous avons une consistance, nous avons une existence. Nous ne sommes pas une sorte d'émanation. Nous ne sommes pas dissous dans un grand tout. Celui qui porte la ceinture est quelqu'un. Il se distingue. Il se repère. On pourrait dire que c'est un homme libre, comme celui qui sort d'Égypte et qui va aussi mettre une ceinture à ses reins, comme Pierre qui sort de prison, qui va aussi mettre une ceinture à ses reins. C'est peut-être même la caractéristique de l'être libre, libre parce qu'il a une existence propre, libre parce qu'il a une propriété privée, lui. Il n'appartient à personne. Comme je le disais finalement dans la partie précédente, l'homme est un sujet, au sens plein du terme. Il peut dire « je ». Cet homme peut dire « je », il peut dire du coup « je ne sais pas ». Il peut dire « je décide de me taire ». Il peut aussi prendre la parole pour faire connaître à l'Éternel, autrement dit, pour lui apporter son témoignage personnel. Contre toute attente, l'Éternel dit à Job, « Je te demanderai et tu me feras connaître. » Tu me feras connaître. Cela remet sérieusement en question l'omniscience divine. Et cela remet sérieusement en question l'incapacité de l'homme à pouvoir dire quoi que ce soit. Simplement, son champ de connaissance doit être remis à sa juste place. L'homme peut apporter son témoignage personnel, ce qu'il sait sur lui, ce qu'il sait de lui-même. Il peut donc protester. Ouf ! Nous ne sommes pas condamnés au néant. Alors, sans aller jusqu'à dire que ce passage biblique instaure l'ère du protestantisme, disons qu'il autorise une spiritualité qui met l'accent sur la liberté individuelle. Il suscite une manière d'être croyant qui ne met pas ses convictions dans sa poche, mais qui, à la limite, les met en bandoulière autour de ses reins, et qui ne se contente pas d'annoncer ce qui s'est toujours dit. Car au point de cette histoire, Job n'aura pas été le croyant sans aspérité, qui aurait caressé la divinité dans le sens du sacré. Job s'est révolté, et bien révolté. Il a demandé des comptes. Il s'est dressé contre ce qui lui semblait être injuste. Il s'est dressé contre Dieu. Il n'a rien accepté aveuglément. Il n'a pas pris le discours de ses amis ou soi-disant amis pour argent comptant. Et dans quelques versets, on apprendra du rédacteur que c'est Job qui a bien parlé, qui a bien agi, et non ses amis. Certes, il est des aspects où il convient de faire preuve d'humilité et de renoncer à son désir d'omniscience. Mais cela n'implique pas le mutisme total. D'ailleurs, Job reprendra la parole sur le conseil de Dieu lui-même qui envisage de l'interroger, disais-je. La parole de Job est donc attendue par Dieu lui-même. Comprenons que notre parole est attendue, qu'elle est déterminante dans un monde où il y a beaucoup trop d'amis de Job. Beaucoup trop d'amis de Job dont le discours nous empoisonne et empoisonne le monde. La ceinture rappelle que nous avons une personnalité propre, une existence propre, une sorte de propriété privée qui doit être respectée. Cela implique que nous n'avons pas à nous laisser marcher sur les pieds, ni même à nous laisser impressionner par ceux qui prétendraient posséder la vérité sur tout, parce que ceux-là sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir précisément qui est Dieu sans ne plus avoir à s'interroger sur ce que Dieu désigne sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir ce qu'est une vie bonne, et en particulier pour les autres, sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir quel est le programme économique qui résoudra tous nos problèmes sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir précisément quel est le chemin de votre salut, étape par étape, sont des imposteurs. Mais ceux qui ne répondent pas aux sollicitations de la vie, ceux qui n'offrent rien à penser quand la vie nous interroge, lorsqu'elle a besoin de notre parole, de notre conviction, de notre confiance, de notre oui ou de notre non, ne rendent pas un plus grand service. Ils laissent toute la place aux amis de Job, ils laissent toute la place aux imposteurs, ils laissent toute la place à ceux qui trahissent la vie et imposent leur idéologie qui leur tient lieu de Dieu. Comme le disait le pasteur Alphonse Maillot au sujet de ce texte, l'homme qui cherche, même s'il se trompe, même s'il blasphème, même s'il prend Dieu pour ce qu'il n'est pas, lui est plus sympathique, plus proche que l'homme qui sait tout, plus proche que le théologien assuré et rassasié de vérité. Et il ajoutait, Dieu a beaucoup moins peur des hérétiques ou des révoltés que l'Église. Merci pour ce passage du livre de Job. C'est finalement un passage qui nous engage sur une méditation personnelle bien plus importante que ce que cette prédication ne fait malheureusement qu'effleurer. Il interroge nos sciences, il interroge nos idéologies, il interroge notre rapport à la vérité et notre rapport aux autres. Il interroge notre rapport au réel. Et loin de disqualifier nos recherches, il nous encourage à ne jamais mettre un terme à notre quête de la connaissance, pourvu qu'elle ne se fiche pas en un savoir définitif, mais qu'elle soit une manière de nous rendre toujours mieux responsables devant l'Éternel et devant la vie, qui, elle, ne s'arrête pas chemin faisant. Amen. Levons-nous pour chanter au cantique 289, ce cantique bienheureux qui t'aime, les strophes 1, 2 et 3. À l'issue de ce culte, frères et sœurs, un verre fraternel sera servi dans la grande sacristie. Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y aura pas d'après-midi de l'oratoire, compte tenu du fait que ce sont les vacances scolaires et que les personnes qui s'en occupent n'étaient pas disponibles. Ce soir, à 22h25, vous êtes soit devant votre téléviseur à regarder Protestants en France, un film documentaire sur vous, en fait. Vous allez voir l'oratoire, vous allez voir votre pasteur, vous allez voir ceux que vous connaissez. Et puis d'autres, vous verrez les conseillers presbytéraux aussi, avec leur bon profil. Et si vous n'avez pas l'occasion de le voir, eh bien vous savez que vous pouvez soit le consulter en replay, soit sur Internet. Et puis le deuxième épisode sera diffusé le dimanche suivant. Cette semaine est donc assez tranquille. Vous pourrez acheter quelques livres et revues pour l'occuper astucieusement. Je vous recommande notamment le dernier numéro d'Évangile et Liberté avec un dossier de Guillaume Monod, pédopsychiatre et paroissien ici même, qui a écrit sur ceux qui rentrent du djihad et qu'il a rencontré en prison, hein, sur le processus de déradicalisation, mais plutôt sur le phénomène de radicalisation. Donc c'est tout à fait intéressant. Et il y a aussi des exemplaires du numéro hommage à Raphaël Picon qui sont disponibles. Dimanche prochain, dimanche 1er mai, n'oubliez pas d'apporter du muguet à votre autre pasteur, c'est Marc qui présidera le culte. Et cela sera suivi d'un repas paroissial à midi. Donc nous vous encourageons à vous inscrire au comptoir librairie de façon à ce que nous puissions faire les courses dans les bonnes quantités. Et nous faisons aussi appel à des personnes qui seraient d'accord pour assurer le service de garderie dimanche prochain. Voilà, cela pourrait être utile. S'il y en a un parmi vous qui est disponible pour cela, eh bien qu'il contacte Dorothée Gruel qui est au milieu de l'assemblée et qui pourra donc vous aider à préparer cela. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, faisons un bon usage de ce que nous possédons. Maintenant que l'offrande est faite, j'aimerais vous inviter à ne pas être trop focalisé sur la question de l'argent. Il y a 2 semaines, nous avons fait un appel à contribution pour le dossier de la Feuille Rose, notre journal paroissial. Le dossier sera consacré à savoir ce qui nous unit. Est-ce la foi? Est-ce une perspective? Est-ce le plaisir d'être ensemble? Nous avons quelques paroissiens qui nous ont envoyé de l'argent. C'est généreux, c'est bien, mais on a besoin de textes, en fait. Ce ne sont pas des contributions financières, elles sont les bienvenues. Mais contributions en termes de textes pour le dossier du journal paroissial. Donc prenez vos plumes et dans la semaine qui vient, écrivez-nous des textes sur ce qui pour vous fait communauté. Je passe maintenant la parole au pasteur Florence Thoman pour continuer à nous présenter ce que vous allez faire cette semaine.
Merci James. Eh bien écoutez, comme j'ai entendu que cette semaine était un petit peu plus calme, ce sont les vacances en région parisienne, je vous invite à venir au concert qui sera donné par nos amis donc de la SALT, de Fiana Rantsou, mercredi 27 avril à 20h à l'église luthérienne Saint-Marcel. C'est, alors j'ai quelques petites affichettes, donc les personnes intéressées pourront en prendre une pour avoir l'adresse. C'est 24 rue Pierre-Nicole, Paris 5e, c'est au métro Port-Royal. Sinon, ils donneront également un concert à Creil, à l'église protestante unie de Creil, mais c'est peut-être un petit peu plus loin. Voilà. Donc venez nombreux et l'entrée est libre et il y aura une offrande qui sera destinée à la faculté de théologie de Fiana Rantsou, notamment pour la réfection des sanitaires. Merci à tous.
Au moment de célébrer le repas du Seigneur, nous éprouvons le besoin d'une action de grâce, le moment de dire merci. Nous nous recueillons dans la prière. Oui, éternel notre Dieu, c'est notre joie de te célébrer pour ce monde que tu crées si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans ta gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, cet esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. C'est pourquoi nous célébrons ton nom et nous te chantons. Amen. Dans la nuit où il fut livré, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude ». Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions. Éternel notre Dieu, toi qui nous rassembles et nous invites, veuille réveiller en nous le désir et l'attente de la venue de ton Fils. Donne-nous de bénéficier de ton esprit pour que nous recevions en ce pain et en ce vin la présence du Christ. Comme ce pain est fait des pieds autrefois dispersés et maintenant réunis, comme ce vin est fait de grappes autrefois éparses, qu'ainsi tous les hommes soient rassemblés dans ton amour et réunis un jour dans ton royaume. En communion avec tous les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Christ. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Oui, frères et sœurs, le Christ frappe à la porte de notre existence. Sentons-nous libres de lui ouvrir et de lui faire bon accueil. C'est ici la table de la fraternité. Chacun, chacune est le bienvenu. Nous ferons des tables successives et donc je vous propose de venir par l'allée centrale et de repartir ensuite par les allées latérales. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude, pour le pardon de tous.